Nous avons annoncé pour aujourd'hui une étude biblique répondant à la question qui peut recevoir le baptême. Les deux études précédentes ont permis d'établir par la Bible la nécessité du baptême et le but de ce baptême qui est la rémission des péchés. Pour répondre à notre question d'aujourd'hui, nous reverrons naturellement les différentes conversions que nous avons déjà évoquées et les différents commandements concernant le baptême. De nos jours, le mot baptême évoque presque automatiquement la cérémonie qui se déroule autour d'un enfant nouveau-né, cérémonie qui comporte dans certaines confessions jusqu'à 19 phases. La question que nous avons posée en début d'étude a peut-être paru trop simple car, de l'avis quasi général, tout le monde peut être baptisé. Nous devons cependant nous rendre à l'évidence, et à cette évidence suivante, que le baptême d'enfant est une pratique étrangère à la Bible, étrangère à l'Église du premier siècle, qu'il nous faut donc rejeter. En effet, tous les cas de conversion rapportés dans le Nouveau Testament nous mettent en présence d'adultes, c'est-à-dire de personnes responsables de leurs actes. Le salut offert par Jésus-Christ est une question de choix. Ou bien l'homme accepte l'invitation du Christ, et dans ce cas, il se soumet à ses conditions, ou bien il refuse. De ces deux attitudes dépendent respectivement le salut ou la condamnation. Les enfants sont hors de cause. Nous y reviendrons d'ailleurs plus tard. La Bible dit clairement qu'il faut obéir à l'Évangile, que Jésus est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Jean nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Tous ces passages nous montrent distinctement que le salut n'est proposé et offert qu'à ceux qui sont capables de croire en ce salut et d'exprimer leur foi intelligiblement. Les différents cas de conversion dans le livre des Actes nous montrent bien que le baptême n'est administré qu'à la suite de plusieurs étapes préparatoires. C'est d'abord l'instruction dans l'Évangile, laquelle a pour but de faire naître la foi, et une résolution de changer de vie, ce qui est la vraie repentance. Et c'est là qu'intervient le baptême. Et le baptême d'un sujet pleinement conscient et responsable de ses actes. C'est pour cette raison que dans la première de ces études sur le baptême, nous avons posé la question suivante: combien d'entre nous se souviennent-ils de leur baptême comme d'un acte de foi conscient et intelligent dans lequel ils se sont unis mystérieusement à la mort et à la résurrection du Christ? Quelle est l'utilité d'un baptême dont le sujet ne peut ni comprendre, ni parler, ni croire, ni se repentir, ni même participer? À ce point où il paraît évident que le baptême d'enfant n'a aucune base scripturaire, ni même logique, pour justifier son existence, on pourrait objecter que dans la Bible, il est parfois question de familles entières se convertissant à l'Évangile. Dans ces cas, ne sommes-nous pas en droit de supposer que ces familles comprenaient des enfants, lesquels ont sans doute participé à la conversion de toute la famille? Cette objection paraît valable, car en effet, le Nouveau Testament rapporte plusieurs conversions de familles entières, comme par exemple au chapitre 10 et 16 du livre des Actes des Apôtres. Seulement, si on examine ces cas de plus près, on doit bien admettre que rien ne prouve qu'il y ait eu de jeunes enfants dans ces familles ou qu'ils aient été baptisés avec leurs parents. Les événements indiquent plutôt le contraire, car dans chaque cas, les personnes présentes sont en mesure d'entendre la prédication de l'Évangile, de réagir à cette prédication, et après le baptême, elles peuvent se réjouir dans le Seigneur. Luc insiste d'ailleurs beaucoup sur la joie des convertis après leur baptême. Le fait est que la Bible ne fait aucunement mention du baptême des enfants, ne serait-ce même que par une vague allusion. Aussi, ceux qui veulent désespérément fonder cette pratique sur des bases bibliques doivent-ils jongler avec les passages obscurs pour essayer de leur faire dire ce qu'ils ne soupçonnent même pas. Les enfants ne sont pourtant pas absents de la Bible. Par exemple, en racontant la merveilleuse multiplication des pains, Matthieu précise que ceux qui avaient mangé étaient 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On sait donc que les enfants, accompagnaient souvent leurs parents pour venir écouter Jésus. Une autre fois, l'apôtre Paul, accompagné de Luc, arrive dans la ville de Tyr au cours d'un de ses voyages missionnaires. Après quelques jours, Luc raconte qu'au moment de partir, tous les chrétiens nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'en hors de la ville. Les enfants font partie du décor, ils font partie du nombre. Ils ne sont pas quantité négligeable, et dans sa précision habituelle, Luc se devait de les mentionner. Toutefois, lorsqu'il s'agit de conversion, les enfants ne font plus partie de la narration, en vertu de cette même précision presque méticuleuse du narrateur. Par exemple, lorsque Philippe l'évangéliste prêche en Samarie, Luc rapporte que lorsqu'ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. L'intention de l'auteur avec ces détails est évidemment de nous montrer le succès remporté par la prédication de l'Évangile aux Samaritains. Pourquoi Luc n'a-t-il pas dit « lorsqu'ils eurent cru, hommes, femmes et enfants se firent baptiser » car il y avait sans doute des enfants dans la foule des Samaritains, comme dans celle qui venait écouter Jésus. Pour la raison simple et logique que les enfants ne comprennent rien à l'Évangile et qu'ils sont donc incapables de prendre le baptême biblique par immersion en connaissance de cause. Jésus avait bien dit « celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Les hommes ont donc renversé l'ordre de ce commandement. Ils baptisent d'abord le nouveau-né et lui demandent de croire ensuite. Le commandement du Christ se trouve donc modifié comme suit. « Celui qui sera baptisé et qui croira sera sauvé ». Chers amis, nous nous plaignons de ne pas pouvoir nous entendre en religion. Je concède qu'il existe certains points épineux dans lesquels il est difficile de ne pas s'embourber. Ces points-là ne sont d'ailleurs pas essentiels. Ils appartiennent surtout au domaine de l'opinion. Mais si nous ne parvenons même pas à nous entendre sur une question aussi claire et aussi généreusement expliquée que la question du baptême, alors il y a de quoi désespérer. Il faut vraiment déployer des trésors d'ingéniosité dans une immense mauvaise foi pour essayer à tout prix de fonder le baptême des enfants sur des bases bibliques inexistantes. On a parlé du péché originel qui est effacé, dit-on, par le baptême. Il fallait bien justifier d'une manière ou d'une autre le baptême des enfants. Mais d'où vient cette doctrine ? Certainement pas de la Bible. Jamais un apôtre n'a parlé d'un tel péché souillant un enfant dès sa naissance. Les apôtres ont parlé des conséquences du péché d'Adam dont nous souffrons, et non pas de sa culpabilité. En fait, le prophète Ézéchiel avait dit avec énergie, « Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc chacun est responsable de lui-même. » La doctrine du péché originel nous condamne au contraire à porter l'iniquité de notre père Adam. Considérons en outre l'attitude de Jésus vis-à-vis des enfants. « Laissez les petits-enfants, dit-il doucement, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » La Bible ne trouve rien de répréhensible, rien de souillé, rien d'impur chez un enfant. Et si les hommes font autour de ce petit être une cérémonie qu'ils appellent un baptême, on peut dire que le seul personnage qui ne participe pas à la cérémonie, c'est le baptisé lui-même. Car il ne sait rien. Il ne décide rien, ne comprend rien de ce qui se passe autour de lui. On assiste d'ailleurs souvent, et inévitablement, à des situations quasi ridicules et même quelque peu embarrassantes, où le baptisé hurle à plein poumon, en signe de protestation, tandis que l'officiant le purifie d'un prétendu péché originel, par différents exorcismes. Le baptême en est ainsi réduit à une simple formule magique, agissant sans aucune condition, et indépendamment de la volonté du sujet. Nous sommes loin du baptême prescrit par Jésus et bien décrit dans les conversions que nous avons étudiées. Chers auditeurs, il importe que chaque croyant revienne à la Bible comme à une source pure à laquelle il faut boire pour survivre. Il pourra ainsi se libérer de toutes les doctrines et traditions humaines étrangères à la Bible, comme le baptême des enfants par exemple, qui ne s'est généralisé que vers le XIe siècle. De l'avis de tous les historiens et théologiens de renom, tant juifs que catholiques que protestants. Dans l'Église du Christ, il n'y avait que des croyants adultes, baptisés par immersion au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de leurs péchés. L'Église du Christ était donc l'assemblée des croyants baptisés. Pourquoi ? Ne pourrions-nous pas retrouver cette même Église du Christ au XXe siècle, dans toute sa simplicité et dans toute sa pureté? Pourquoi ne pourrions-nous pas retrouver le baptême biblique dans sa forme et dans sa signification biblique? Chers auditeurs, avez-vous reçu le vrai baptême? Maintenant, c'est à vous de décider en votre âme et conscience.